Vous savez peut-être, le Louvre va s'implanter à Lens. Et oui, ce sera donc le Louvre-Lens, en principe prévu dans quelques années. Enfin, ça, on en parle. En tout cas, la première pierre a été posée. Et je vous propose de revenir sur cet événement avec un reportage que j'ai réalisé là-bas, sur place. Donc je vous propose en plusieurs parties ce reportage. J'ai passé quand même un bon petit moment à discuter avec les gens du coin, comme on dit, les vrais, les ch'tis. Presque même les boyaux rouges pour certains. Voilà, donc dans un premier temps, je vous propose de rencontrer l'harmonie municipale de Lens et son directeur Michel Coranflot, un ancien mineur aussi, membre de l'association des Gueules Noires, et puis un jeune qui rend hommage à son père mineur et pourquoi pas un responsable local de la CGT. Vous êtes sur Radio Campus 106,6 FM.
Oui, allô ? Ah, attention, c'est parti.
On y va.
Et oui, c'est parti pour le Louvre-Lens. La première pierre a enfin été posée et toute la population se mobilise pour soutenir cette initiative. Michel Coranflot, directeur de l'harmonie municipale de Lens. Michel Coranflot, bonjour.
Oui, bonjour.
Donc vous êtes directeur de cette harmonie. Une harmonie, c'est important pour une ville, et surtout dans une ville, dans le bassin minier, on va dire que c'est le cœur, l'âme un peu.
Oui, ben ça, c'est vrai qu'on a un héritage qui est vraiment très ancien avec les anciennes harmonies des mines hein, qui existaient, où les gens se retrouveraient. Et ça, c'est une spécificité, un petit peu de notre région, comme celle de l'Est. Hein, et je suis ravi aujourd'hui d'être entouré d'un gros noyau, de l'harmonie, parce que certaines personnes travaillaient ce matin. Nous sommes à peu près une quarantaine et je crois que c'est quelque chose d'assez fantastique, quoi.
C'est de la musique qui est très vivante, hein, on va dire, la musique de l'harmonie. On la retrouve même dans certains spectacles maintenant.
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que les musiques vivantes, dont aujourd'hui on a choisi un répertoire qui est un peu champêtre, hein, donc de la musique 1900, c'est le fait de jouer dehors. Nous préparons notre prochain concert où nous allons jouer le Boléro de Ravel, un concerto avec un violoniste, M. Taiping Wang, qui est soliste à l'Orchestre de Picardie, qui viendra jouer avec nous, concerto de Max Bruch. On joue les tableaux d'exposition, mais on fait aussi de la musique de film. Et puis, je pense que dans le courant du mois de mai, nous allons nous rendre à l'Olympia pour accompagner des chanteurs de variété, ainsi que des DJ. Donc voilà, c'est une expérience nouvelle aussi qui est très intéressante. Bon, de toute façon, la musique a toujours été, dans le cœur des mineurs, quoi. Bon, je sais un petit peu de quoi je parle parce que mon papa travaillait ouvrière. Il était clarinettiste à la musique de l'Escarpelle, qui est pas loin de Douai. Et donc, c'est aussi quelque chose que je tiens un petit peu de lui, quoi.
Oui, allô ?
On y va.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Donc ici, vous êtes heureux aujourd'hui ?
Ah très, ouais. Depuis qu'on en parle, ce Louvre, je pense que les travaux ne vont plus traîner. Et si il faut donner le premier coup de poche, je le donnerai.
C'est la Sainte-Barbe aujourd'hui.
Oui, et puis comme vous pouvez voir, là, on fait partie d'une association qui s'appelle les Gueules Noires. On a à la tête de cette association, il y a un président. Bon, le président, il reçoit des désirs d'autrui, puis après, il voit avec son personnel comme aujourd'hui, bon, bah, il y a longtemps, on a même une réunion, il y a longtemps qu'on sait qu'on devait venir là.
Donc vous êtes sur un lieu, un site ici, qui est un site quand même minier au départ ?
Oui, bah, vous voyez, il reste un bâtiment là-bas. Il reste le seul bâtiment qui représente la mine, mais je ne sais pas s'il va être rasé. Hein. Mm-hmm. Il n'y a plus grand-chose qui représente le pays minier.
Et c'est un symbole pour vous que le Louvre s'implante là ?
Ben, c'est un symbole, oui, parce que c'est nos racines, ce lieu-là. C'est nos racines, on y vit. Alors donc on est content. Hein.
Une petite question, est-ce que vous êtes déjà allé au Louvre à Paris ?
On a eu l'occasion avec un bus qu'on vivait dans un voyage. On est rentré à l'extérieur, on n'est pas allé dans le Louvre même.
Donc ici vous l'aurez sur place ?
Et j'espère que je pourrai y rentrer.
Merci, ouais. Bonne journée.
Je vous en prie, monsieur.
Et bonne fête de Sainte-Barbe.
D'accord, je vous remercie beaucoup.
Écouter une musique qui fait penser à mon père.
Ouais.
C'est Franck Michael qui la chante celle-là. Attendez, je vais vous la mettre.
Tu dis à ton père pourquoi ?
Parce que lui, c'était un ancien mineur de Foncy. Il aurait eu 78 ans le 20 mars 2010. Écoutez.
Donc sa vraie famille, tu en fais partie ?
Oui.
Quelle impression aujourd'hui, ça t'émeut ?
Ah, c'est un rêve qui devient réalité. C'est l'honneur, c'est tout, c'est un plaisir qui devient réalité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'ils ont fait pendant une certaine période. 1100 hommes tous les 24 heures qui tapaient au marteau-piqueur. Ils ont fait grand pour la France, que la France, du coup, ils peuvent bien donner le Louvre.
Donc, pour toi, c'est une grande fierté aujourd'hui.
Ouais, c'est un rêve qui devient réalité.
Il restera une trace du travail de ton père, quelque part.
Voilà, ouais. Même mon grand... Je suis Porcher Louis, troisième du nom. Mon grand-père, il s'appelait Porcher Louis, mon père Porcher Louis, moi Porcher Louis. Si tout va bien, ben... Si j'ai un petit garçon, ben, je l'appellerai aussi Porcher Louis.
Est-ce qu'il va travailler au Louvre alors ?
J'espère, oui. Faire la construction, hein, comme c'est mon métier dans le bâtiment. Et après, faire chance si je pourrais faire guide touristique et puis faire partager la région. Je fais partager de façon, quand il y a du football, il y a des étrangers, des Allemands, des Anglais, ils viennent ici. Il y a de quoi à raconter ici.
Donc pour ton futur fils ou ta future fille, c'est plein d'espoir, plein d'avenir ?
Ouais, oui. Il faudrait que je trouve un petit travail. Et puis après, je pourrais construire une famille, quoi.
Voilà, bah, bonne chance. Hein.
Ah, ok, je vous remercie beaucoup, monsieur.
Thank you. aujourd'hui, c'est une fête pour vous ?
Une fête ? Oui, on peut dire que c'est une journée à marquer d'une pierre blanche, le Louvre qui s'installe dans le bassin minier. Le tout, c'est ce qu'on dénonce un peu, c'est éviter que cette réhabilitation se fasse au détriment des classes populaires. Alors là, on voit sur le plan on voit bien les habitations minières et les gens qui y vivent là. Est-ce que demain, quand on reviendra sur cette même photo, ça sera toujours les mêmes gens qui resteront sur place ? Alors, nous, on a une grosse problématique ici. La problématique, c'est les gens actuellement, et on le voit encore plus là maintenant avec les répercussions de la crise qu'on fait payer aux gens les plus faibles. La principale préoccupation, c'est de pouvoir manger. Alors on dit le pain à la rose, mais là aujourd'hui, la priorité de notre bassin minier, c'est le pain. Autre chose, un musée national payé par des fonds régionaux au détriment de la culture régionale, au détriment aussi du volet important de notre région industrielle, parce que réellement la richesse elle est créée par l'industrie. On a besoin de culture, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de notre volonté industrielle. On a besoin de nos usines.
Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit une autre forme d'industrie, une industrie touristique et culturelle qui se développe et qui changerait un petit peu la mine de notre région, on va dire ?
Oui. Ça peut être un secteur en plein développement, mais il ne faut pas que ça soit au détriment du secteur industriel lourd. Si vous prenez le Nord-Pas-de-Calais, c'est la troisième région agricole, une région forte dans l'industrie agroalimentaire, il ne faut pas que ça se fasse à ce détriment-là. Je crois qu'on a une réelle carte à jouer en pensant, en étant placé à cette troisième place des régions agricoles. Et là aussi, on a un secteur à énormément développer, qui sera créateur de richesses et d'emplois.
Tout ça, ça peut être en phase finalement, en réfléchissant bien.
En phase, oui. Mais si on voit aujourd'hui nos camarades dans les musées, ce qui dénonce le non-remplacement des départs en retraite, c'est-à-dire deux départs en retraite remplacés par une seule personne, on a vraiment une crainte réelle à se faire sur les créations réelles d'emplois indues par le Louvre-Lens.
Donc on se retrouve quand pour faire un pré-bilan, on va dire ?
Le pré-bilan, on pourrait déjà regarder un peu sur les plans d'occupation des sols. Enfin, maintenant, pas les plans d'occupation des sols, on parle de plan local d'urbanisme, pour voir réellement les projets dans le passé, pour voir si réellement déjà il y aura un impact pour les gens qui vivent à côté, et savoir si on retrouvera cette même population au même endroit. Ce que je crains le plus, c'est que par le fait de l'arrivée du Louvre, les classes populaires ils soient poussées vers les extrémités du bassin et que ces terrains-là, on construise du haut standing. C'est la grosse crainte qu'on a.
Donc vous êtes en quelque sorte ici porte-parole de la CGT ?
Je vais pas me mettre cette responsabilité. Je suis le responsable de l'Union locale de Lens, l'Union des syndicats CGT de Lens. Effectivement, ce que je suis en train de dire, ça fait partie d'une réflexion qu'on a élaborée. Le projet est beau, mais il faut qu'il soit fait avec la population et qu'on n'oublie pas le volet important de l'industrie.
Merci beaucoup.
Voilà, merci.
Et oui, c'était le jour de la Sainte-Barbe 2009, ça se passait à Lens, vous l'avez remarqué, il y avait du vent, il faisait même froid, ça vous n'avez peut-être pas encore remarqué, mais peut-être pas aussi froid qu'aujourd'hui d'ailleurs, hein, mais bon. Donc les gens que nous avons rencontrés sont de vrais gens, qui habitent vraiment dans ce secteur de Lens, Liévin. Là je vous propose de retrouver deux personnes qui habitent Liévin et qui sont venues aussi, puisque Liévin-Lens est vraiment limitrophe, et ce territoire on peut dire qu'il fait la jonction. Et puis aussi quelqu'un que vous connaissez certainement, du moins par sa friterie, la fameuse friterie Momo de Bienvenue chez les Ch'tis, avec toujours la musique de l'Harmonie de Lens, dirigée par Monsieur Corent Flo, que je salue. Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM.
Oui, allô ? Ah, attention, c'est parti.
Radio.
S'il a déjà fait couler beaucoup d'encre, le projet du Louvre-Lens n'a pas encore fait couler de béton. Et les habitants de la région de l'ex-bassin minier lensois ont profité de la pose de la première pierre de ce musée pour s'exprimer à notre micro. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Vous habitez dans ce secteur ?
On habite à Liévin, on habite quelques rues plus loin. Hein.
Donc on peut dire que ce quartier, c'est entre Liévin et Lens ?
Oui. Il n'y a pas de frontière ici, hein. Tout est imbriqué. Lens n'a pas de frontière avec Liévin. Hein. Les rues se continuent, les maisons, les corons, tout est continu.
Et donc ce lieu va encore davantage faire le lien entre les deux parties,
Oui, ça va cimenter l'unité entre les deux communes, entre les deux villes, Liévin et Lens.
Pour vous, est-ce que ça peut être une idée de fusion à terme ?
Oui, il le faudrait parce que plus on est nombreux, plus on est fort. Et puis l'union fait la force. Et puis au niveau densité de population, plus on sera nombreux, plus les crédits seront importants. Hein.
Alors, certaines personnes disent qu'il y a quand même un risque que les habitants de ce secteur soient envoyés, entre guillemets, vers l'extérieur de la ville pour que ce lieu puisse faire du développement économique. Comment vous ressentez ce point de vue ?
L'arrivée du Louvre, ça va apporter certainement quelque chose. Hein. L'effet Bilbao, on a bien vu que ça a donné de l'emploi, ça a amené des richesses. Mais est-ce qu'on peut transposer le cas de Bilbao ici ? On verra. L'important, c'est qu'on remonte un peu de niveau culturel. Hein. L'arrivée du Louvre va apporter un plus au niveau culturel. Maintenant, il y a un gros travail à faire en aval. C'est de, quand les touristes sont là, ce sera de les fixer dans la région. Hein, que ce ne soit pas un lieu de passage, le Louvre, les fixer dans la région pour amener un peu d'argent à toutes les organisations, hein, les commerces, l'emploi. Alors là, il y aura un gros travail à faire pour fixer le touriste dans la région quelques jours après sa visite du Louvre.
Donc ça, pour le touriste, on a bien compris que c'était important, tant qu'il vienne ici, qu'il voit aussi d'autres lieux. Pour les habitants, est-ce qu'ils ont peur pour certains de ne plus pouvoir vivre dans ce secteur parce que les prix vont flamber ou parce qu'on va essayer d'utiliser leur zone d'habitation pour en faire des lieux commerciaux ou d'autres
non,
choses ?
Non, je ne pense pas qu'on aille jusque-là. Hein, mais il y a un petit quelque chose qui nous ennuie, ce sera le financement. Hein, parce que la région n'est pas riche, hein, elle a beaucoup souffert de la fin de l'épopée charbonnière. Il y aura un gros travail à faire au niveau du financement et on craint un peu que le Louvre n'aspire toutes les finances au niveau culturel. Hein. Mais positivement, on est pour le Louvre, hein. on est pour l'arrivée du Louvre.
Donc aujourd'hui, à cette inauguration, le président de la République était attendu, il n'est pas venu visiblement ?
Non, il n'est pas venu et pourtant, vous savez, la région a énormément donné. Hein. Tout à l'heure, on rappelait la guerre 14 qui a complètement rasé la région. Ensuite, il y a eu l'épopée charbonnière qui a remonté la France après la Deuxième Guerre mondiale. L'État a une dette envers la région, une dette morale envers la région. Et la venue du président de la République aurait été normale.
Alors déjà
d'autant plus qu'ils ont financé le Louvre du bail alors que l'État a dit qu'il n'amènerait aucun argent pour le Louvre-Lens.
Si je résume, donc l'État a une dette déjà antérieure et là maintenant on a pris un crédit presque en son nom, on va dire.
Oui. Enfin, là, on entre dans la politique.
C'est un autre domaine. Vous avez le droit de vous exprimer ou non ?
Non. Nous espérons beaucoup du Louvre-Lens.
Monsieur ?
Oui ?
Même point de vue ?
En partie, oui. Général, quant au financement, je pense quand même, il me semble avoir lu dans la presse que l'État avait mis sa contribution. Bon, là, il faudra vérifier. Hein. Sinon, quand vous parliez de rapprochement des deux villes, bon, je pense que les habitants sont pour, en général. Mais ici, dans la région Nord-Catalais, vous savez, les villes, ce sont des fiefs tenus par des hommes de caractère. Et pour concilier les caractères de ces hommes, c'est pas, à mon avis, c'est pas encore aujourd'hui qu'on y arrivera. Hein. Surtout entre Lens et Liévin, c'est pas toujours le grand amour. Mais bon, ça fait partie de la, ça fait partie de la vie de chez nous. Hein. Les houillères, c'était comme ça. Hein.
Bon, ils travaillent quand même dans la même communauté urbaine.
Ah oui, non, non, mais bien sûr, ça va dans le bon sens. Mais bon, ce sont des gens de caractère. Hein, donc, bon, espérons qu'un jour, chacun mettra un petit peu de l'eau dans son vin. Et puis qu'on fera une grande ville. Quoi. C'est vrai, Lens, Liévin, Aviron, Salomines. On aurait une ville de l'ampleur de Lille, hein, quand même. Hein.
Oh, oui.
Avec tout ce qui découle d'une grande ville, c'est-à-dire tous les services et les administratifs et tout. Mais bon, on y arrivera peut-être. Hein. Avec le Louvre, peut-être, ça va contribuer.
Oh, ce sera peut-être le détonateur. Hein.
Peut-être. Donc vous êtes habitant de Liévin aussi ?
Oui, moi j'habite à Liévin, là pareil, à 2 km d'ici. Ici, comme dirait l'autre, c'est mon coin. Quand j'étais gamin, j'ai couru ici, partout. Bon.
Alors quand on voit ce plan-là, on a quand même encore un peu de mal à se faire à l'idée de quelque chose qui va être concret. Est-ce que vous avez déjà une impression déjà au départ ?
Bah, oui, les bâtiments, c'est vrai que quand on voit les bâtiments sur le plan, mais au niveau de l'environnement, à mon avis, ça ne va pas changer. Hein. Bon, toutes les maisons, bon, peut-être un petit peu, on va essayer d'améliorer tout ce qui est autour, rénover, mais de là à détruire tout un secteur, non, à mon avis, non.
Il faut garder notre identité minière, on ne peut pas abattre tous les corons, toutes les maisons des mines pour embellir l'environnement du Louvre. Hein. Il faut garder notre identité historique.
Oui.
Le Louvre va s'intégrer parfaitement, je pense que ça a été conçu pour. Hein. Le Louvre va s'intégrer parfaitement dans le contexte historique et régional.
Bon, le fait qu'il y ait le stade à proximité, ça peut apporter un plus ?
Ah oui, à mon avis, c'est du 100%. Là. Oh,
c'est lié intimement, hein, c'est le sport et la culture, hein, c'est complémentaire.
Moi, je suis abonné à Bollaire, depuis 7 ans, je fréquente Bollaire, ça va faire bientôt 60 ans. Non, mais Lens et le foot, c'est la même chose. Et le Louvre, ça va s'intégrer dedans automatiquement.
Hein. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura le même engouement pour les choses culturelles par la suite ?
Bah, je pense que oui, hein, ça va y venir petit à petit, hein, ça c'est certain. Bon, c'est vrai qu'en venant au match là à côté, il y aura peut-être l'occasion pour les gars qui viendront un petit peu de l'environnement de faire un petit passage ici sur au Louvre, je pense. Hein.
Peut-être aussi c'est le moment dans les écoles d'entrevoir ces projets, de donner aux enfants l'appétit de se cultiver.
Mais ça a déjà démarré. Hein. Le Louvre, c'est entré déjà dans toutes les écoles. Il y a plein de petits projets. On voit dans la presse, hein, les écoles sont motivées. Hein. Je pense que, oui, au niveau culturel, ça va vraiment apporter un plus, hein, énorme.
Voilà, merci et bonne journée.
Ouais, vous aussi, merci.
L'impact économique du Louvre-Lens surfera-t-il sur la vague du succès du film Bienvenue chez les Ch'tis ? Rencontre avec Monsieur Dambrine et sa friterie chez Momo, entrée dans la légende et que l'on retrouve sur les lieux des festivités. Monsieur Dambrine, bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Donc Momo, vous connaissez ?
Ah bah bien sûr je connais Momo, c'est l'acteur de la friterie de Bienvenue chez les Ch'tis.
Alors ici on est dans la friterie Momo, c'est à qui ?
C'est à moi, j'en suis le propriétaire, c'est moi qui l'ai fait pour Danny Boone. Donc je lui ai construit la friterie, et j'ai fait les frites à Berg pendant 2 jours, et quand les caméras venaient filmer l'acteur, je sortais.
Donc voilà, la frite c'est votre métier ?
Ça fait 40 ans que je fais les frites, 61 ans j'ai toujours la frite.
Donc économiquement, la friterie c'est un bon plan quand même ?
Oui, c'est un bon plan, il suffit de remonter ses manches, de jamais acheter de chemise, mais des chemisettes. Et puis quand vous travaillez 14-15 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an, voilà, on réussit à créer quelques 200 emplois.
Alors ce film, ça vous a apporté quoi à vous ?
Énormément. Non seulement à moi, mais à la région. Ça a dynamisé le Nord-Pas-de-Calais et ça a valorisé le métier de friteur.
Certains disent que c'est un petit peu caricatural.
Non, mais ça c'est les jaloux. Vous savez, il en faut des jaloux. Hein. Non, moi je dis que ça a amené. Regardez-vous, les gens mangent des fricadelles, ils ne connaissaient pas la fricadelle. Bah, c'est grâce à Danny Boone.
Au fait, qu'est-ce qu'il y a dedans ?
On ne sait pas, monsieur, c'est un secret.
Thank you. ce documentaire, de ce reportage consacré au projet du Louvre-Lens, donc sa première pierre déposée le jour de la Sainte-Barbe 2009. Eh bien, je vous propose d'écouter tout d'abord une femme de mineur qui rend hommage aux mineurs en ce jour de Sainte-Barbe, là, où on a réalisé ce reportage, et aussi Monsieur Samad, qui est président de l'Association des mineurs marocains, et toujours avec cette fameuse musique de l'harmonie de Lens. Vous êtes sur Campus 106.6 FM.
Oui, allô ? Ah, attention, c'est parti.
Radio.
La vie associative se porte bien dans le bassin lensois. Certaines associations préservent la mémoire des gens de cette région, celle de la vie difficile des mineurs, mais aussi de la solidarité de toute une population. Témoignage recueilli lors de la pose de la première pierre du Louvre-Lens.
M'intriguez dans cette tenue. Vous représentez qui ?
Nous représentons la société des Gueules Noires. Les Gueules Noires, c'était les mineurs de fond de Liévin. Nous sommes de Liévin. Hein. Nous avons voulu fonder une société pour la mémoire de nos maris, de nos parents et nos grands-parents. Voilà. Hein. Et donc la Sainte-Barbe, comme la Sainte-Barbe, c'est un hommage à tous nos défunts. Donc nous avons, et même les femmes de mineurs, nous sommes vraiment, on a été élevés dans ce contexte-là et on voudrait que ça se perpétue et puis on respecte. Aujourd'hui c'était un hommage, nous ne sommes pas en fête monsieur, nous sommes en hommage pour tous nos défunts et puis cette corporation minière qui a tant souffert, même nous les femmes de mineurs, c'était une vie rude. Et honnête, mais très honnête. Voilà. Et on arrivait à s'en sortir avec de petits moyens. Maintenant, nous avons des enfants qui sont très bien, hein, et qui ont de bonnes situations, mais grâce au courage des mineurs, qu'ils ont été exploités, hein, monsieur. Exploités. Parce que même maintenant, encore, l'État nous doit de l'argent. Et puis, il n'y a pas moyen. Parce que mon mari a été retraité avant 81. Et on nous doit de l'argent parce que jusqu'en 85, il y avait une revalorisation à nous donner. Et on attend encore. Hein. Des promesses, toujours des promesses. Mais enfin, vous savez, on est blasé. On est blasé. On a toujours vécu avec de petits moyens. Mais malgré tout, le respect chez nous, c'est énorme.
Est-ce que le Louvre-Lens, c'est une façon aussi de poursuivre cet hommage ?
Si vraiment on le voit sortir de terre. Parce que c'est toujours des promesses. Même maintenant qu'on nous dit c'est concret, tout est fait, on verra, on verra. Vous savez, on est tellement des gens désabusés qu'on se demande vraiment si ça existera. Hein? Parce qu'à chaque fois qu'on nous promet quelque chose, à chaque fois il y a les bâtons dans les roues. Alors bon, le Louvre-Lens, on voudrait, ça ferait un éclairage dans la corporation minière. Hein? On a toujours été moins que rien. Dans le bassin parisien, dans les médias et tout. Hein. Même quand on tourne des films, tout ça, on nous prend toujours pour la moitié de rien. Donc maintenant, si vraiment ce projet sort de terre, pour nous, ça ferait un nuage blanc sur la corporation minière. Et à ce moment-là, on se dira, nos mineurs ont été récompensés. Voilà. On verra peut-être le bassin minier d'une autre façon. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore beaucoup de barrages. Il y a encore beaucoup de préjugés. Et en plus, c'est répété par des gens qui n'ont rien à voir, qui ne comprennent pas ce que c'est le bassin minier. C'est souvent des gens qui n'ont rien à voir avec nous et qui font des reportages. Donc, au départ, tout est faussé, monsieur. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on était là pour représenter la corporation minière. Et sur le journal, c'est marqué, à cette occasion, les gens s'étaient déguisés. Un mot qui n'aurait jamais dû exister. J'ai téléphoné au journal, le président a téléphoné au journal, on n'a même pas eu la politesse de rectifier. Alors là, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est nos racines qu'on bafoue. Et ça, c'est pas normal.
Donc, votre association a combien de membres ?
Une quarantaine de membres. Et tous avec des origines de mineurs. Voilà. Nous, il y a des femmes de mineurs. Maintenant, il y a des gens qui ont eu des pères mineurs. Mais c'est une association qui va très bien, avec un président mineur. Et qui est impeccable, qui cherche tout le temps, en plus la solidarité. Vous savez, nous dans les mines, c'était la solidarité. On a un président qui est magnifique et qui, malgré ses ennuis à lui, il est toujours autour de ses mineurs, comme dans le temps, dans la mine. Par contre, je vais vous dire une chose, j'ai enterré ma maman le 22 novembre, mais aujourd'hui, je suis là, parce qu'elle était Mahue et mon mari était mineur. Donc, mon mari est décédé il y a 8 ans. Ma maman, on l'a enterré le 22. Elle est décédée le 16. Mais aujourd'hui, je tenais à être là. Pourtant, vous savez, je n'ai pas le cœur à être là. Et ce n'est pas un jour de fête, hein, monsieur. C'est histoire de faire voir qu'on est là, les mineurs. Voilà.
Est-ce que, pour vous, vous pensez que, d'une manière générale, depuis quelques années, le développement de ce bassin qu'on appelle ex-bassin minier est en bonne voie ou pas ?
Oui, parce que nous avons des élus qui se battent à corps et âme pour nous faire quelque chose. Et ça, on pourra les remercier. On a un maire magnifique. Nous, nous sommes déjà un peu anciens. On est contents parce qu'il pense à nous. Mais en même temps, pour les jeunes, il est en train de travailler pour le patrimoine, pour que rien ne se perde. Parce que quand les gens viendront à Liévin, pour le sport, tout ça, eh ben ils viendront voir automatiquement ce qui a été les souches de notre vie.
Est-ce que vous pouvez nous dire, à Liévin, qu'est-ce qui reste pour vous de très symbolique, de bâtiments autour de la mine ?
Les chevalets, les terris. On a nos terris, on a nos chevalets. Nous avons en ce moment l'église de Saint-Amé qui va être aussi une maison de la mémoire parce que nous avons récolté une sculpture. On est en train de refaire les vitraux, tout ça. Et on va voir, on a une maison de la mémoire. Ils ont essayé, les responsables, autant M. Vancaille, M. Percheron, autant M. Cucheda, hein, puis j'en oublie, excusez-moi. Mais ils se sont battus pour garder le patrimoine pour que nos enfants aient des vestiges, quand même, qu'on pense qu'il y a toujours eu la mine.
Alors, ici, on est où exactement ? À Lens ou à Liévin ?
Vous êtes à Lens.
Et à Lens, est-ce qu'il y a encore aussi ce patrimoine qui est préservé ?
Écoutez, je ne peux pas vous parler de Lens, parce que nous sommes sur Liévin, mais je sais que M. Delcourt, M. Delélis, sont en partenariat avec le maire de Liévin pour sauver tout ce qu'il y a à sauver, hein. Hein, après, il y a le 11-19. Le 11-19, là, c'est quelque chose qui est un site qui a été mis au patrimoine aussi. Ça se trouve entre Liévin et Lens. Hein, d'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est un site qui va nous rester aussi. Nos chevalets, nos terris, nos maisons de la mémoire qui sont en train de se mettre. Je pense qu'on va avoir quelque chose de très bien pour nos enfants. Puis, je vous dirai, monsieur, chez moi, enfin, pas chez moi, c'est moi, chez un de mes fils, il y a une vitrine avec la photo du père, avec tout ce qui est de la mine, ses médailles, tout ça. Médaille du travail, attention. Hein. Et puis une photo du père, et puis de moi, on m'a eu pour mes enfants. Vous voyez, c'est un héritage qu'on essaie de leur donner.
Je vous remercie beaucoup. Voilà. Et bonne continuation.
Excusez-moi, je suis une grande parlante. Hein. Mais je le dis avec mon cœur, hein, monsieur. C'est pour vous faire voir qu'aujourd'hui, je suis tout cœur avec tous ceux qui sont... Voilà. Hein.
Monsieur Samad, bonjour.
Oui, bonjour.
Donc aujourd'hui, première pierre du musée du Louvre à Lens.
Moi, personnellement, c'est un grand jour. Parce qu'il mérite, d'abord, Lens mérite cette œuvre, mais aussi le bassin minier. Et aussi notre région, pour aussi voir que ce n'est pas qu'à Paris qu'on doit tout avoir, mais aussi pourquoi pas les Parisiens viennent visiter aussi les régions de France, qui leur permettent également de sortir de parer aussi, de faire sortir leurs enfants, de connaître aussi la France entière.
Alors vous êtes président de l'association des mineurs marocains. Est-ce qu'on peut dire que ce Louvre à Lens, c'est une forme de reconnaissance, de récompense pour vous, vos enfants, etc.
D'une manière générale, oui. Oui, pour tous les mineurs, tous les travailleurs d'une manière générale, toutes les personnes, quelles qu'elles soient, sa profession. Mais aussi, oui, pourquoi pas que les immigrés qui sont venus travailler dans les mines aussi trouvent leur place, même s'il reste encore des petits soucis qui n'ont pas encore été réglés. Par exemple, les problèmes des mineurs maghrébins, en particulier marocains. Mais je crois que cette pierre qui a été posée aujourd'hui, elle a tout à fait sa place, qui nous permet d'en parler de notre histoire, de notre mémoire, pour ne pas l'oublier également.
Donc le Louvre-Lens, bon, c'est bien, mais il y a aussi dans la région, au niveau de la mémoire de la mine, des événements, des bâtiments, des choses, le bassin minier par exemple, UNESCO. Est-ce que ça, ça vous intéresse également ?
Tout à fait, ça m'intéresse, parce qu'on a participé à ce pays-là, on a participé à l'économie, on a participé à toute cette construction, cette histoire, on est dedans. Ça nous intéresse plus fondamentalement. Et aussi, encore une fois, pour ne pas oublier, mais aussi ça nous permet de transmettre à 4 ou 5 ou même 10e génération. Vous voyez ? Moi, j'aime bien ce genre d'histoire, ce genre des musées et tout. Par exemple, je voudrais dire un mot sur le centre historique minier, qu'aujourd'hui, pas seulement parle de notre histoire qui nous permet de transmettre à notre génération, à nos petits-enfants au-delà, mais aussi rend hommage à tous ceux qui ont donné pour cette région.
Alors, actuellement, il y a encore d'anciens mineurs qui vivent et qui défendent des causes diverses. Est-ce que vous pensez que quand il n'y aura plus du tout de mineurs en vie, tout ça, ça va s'effondrer ou bien ça va être préservé et par qui ?
Alors justement, nous souhaitons que ça soit nourri pour qu'ils puissent continuer à rendre hommage à ceux que vous avez dit maintenant, qui vont disparaître demain. Et si les symboles restent, ces personnes-là restent aussi comme si elles restaient encore en vie. Ça, je crois que dans l'histoire culturelle, montre bien qu'il est tout à fait nécessaire de garder ce genre de projet.
On vous a remis la Légion d'honneur récemment. Pour vous, c'est un symbole fort, c'est important dans votre vie ?
Tout à fait, c'est un symbole fort, vous l'avez bien dit, pour deux raisons. D'abord, un mineur marocain qu'ils ont été cherchés au Maroc pour battre le charbon. Et puis lui accorder cette reconnaissance, pour moi c'est un symbole. Et qu'il n'a même pas obtenu la nationalité française. La deuxième, ça montre bien que malgré que je suis un militant, je suis quelqu'un qui critique, je suis quelqu'un qui dénonce, je suis contre la discrimination des inégalités, existe en France, existe dans notre région, malgré tout ça qui est négatif, il y a un côté qui est quand même positif en France, ça me donne encore plus d'espoir de croire à ce que je fais, mais aussi de croire à la France et à la République.
Monsieur Samad, je vous remercie pour ce beau message.
Merci.
Voilà, c'était un jour de Sainte-Barbe, c'était à Lens. Et c'était en 2009, on espère que cette première pierre sera suivie de choses plus concrètes très prochainement. On vous tient bien sûr au courant. Radio Campus 106,6 FM.